La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas parce qu'on est l'homme le plus riche du monde qu'on est à l'abri d'un piratage informatique.
Voilà, on commence par la morale de l'histoire qui avait été révélée hier matin par The Guardian. L'homme le plus riche du monde en la matière, c'est Jeff Bezos, fondateur et PDG du tentaculaire empire Amazon. Et le pirate n'est pas non plus n'importe qui, puisque selon les sources du quotidien londonien, il s'agirait du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, aussi connu sous l'acronyme MBS. Le récit tient du modèle du genre en mode escroquerie numérique de bas étage mais appliqué aux soi-disant grandes ce monde. En avril 2018, selon donc le Guardian, Bezos et MBS auraient échangé de manière apparemment amicale via leur téléphone portable respectif et l'application de messagerie cryptée WhatsApp. Puis, le 1er mai de cette année 2018, Bezos aurait reçu du prince saoudien un fichier vidéo à télécharger, ce qu'il aurait fait. Mais vous connaissez la suite, le fichier contenait un petit logiciel espion qui s'est installé en toute discrétion dans le téléphone du PDG et qui a siphonné ensuite pendant des mois ses données personnelles pour les envoyer, on l'imagine, au service secret de Riyad.
Ça paraît tristement banal comme procédé, mais l'affaire est très sérieuse, accréditée par les rapporteurs spéciaux de l'ONU qui travaillent sur les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite.
Oui, des personnes sérieuses qui ont notamment enquêté et livré des conclusions accablantes contre MBS sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi il y a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, les deux affaires semblent bel et bien liées. Pour comprendre comment, il faut lire le Washington Post qui est en fait au cœur de tout cela. Car Jeff Bezos, en plus d'être le PDG, on l'a dit, d'Amazon, est le propriétaire du grand quotidien américain. Et que ce même Washington Post était le dernier employeur de Jamal Khashoggi qui publiait des tribunes souvent critiques contre MBS depuis son exil forcé aux États-Unis. En mai 2018, 5 mois donc avant l'exécution commanditée du journaliste à Istanbul, Mohamed Ben Salman aurait donc fait pirater le portable de Bezos pour récolter sur lui des informations compromettante permettant de l'affaiblir, de le mettre sous pression pour qu'il arrête de publier les articles de Khashoggi et plus largement des analyses critiques sur le régime saoudien. Alors il faut préciser, avec le Financial Times, que c'est Jeff Bezos lui-même qui a commandé l'enquête des experts en piratage numérique, qui a livré ses conclusions, dévoilées ensuite donc par le Guardian. Ces conclusions, elles amènent de l'eau au moulin du PDG d'Amazon puisque l'an dernier, déjà, il avait accusé les services secrets saoudiens d'être derrière ces photos publiées dans un tabloïd américain de lui en compagnie d'une maîtresse, un scandale qui avait précipité le divorce de monsieur et madame Bezos restait comme l'un des plus coûteux au monde.
Il faut aussi préciser que les Saoudiens contestent tout piratage et qualifie cette histoire d'absurde et d'idiote.
Et sauf que c'est encore le Financial Times qui l'écrit, les Saoudiens sont coutumiers de ce genre de pratique. On sait qu'ils ne lésinent pas sur les moyens de surveillance électronique contre tout ce qui peut ressembler à un dissident politique à l'intérieur du royaume et qu'ils ont également tenté de pirater les communications de plusieurs proches de Khashoggi qui avaient eux aussi fui à l'étranger. Mais tout de même, s'en prendre avec une telle facilité à l'homme le plus riche du monde, ça laisse rêveur jusqu'au journal madrilène El País qui en tire cette conclusion plus large. Si l'un des leaders du nouveau monde numérique peut tomber dans le panneau d'un fichier malveillant qui vient pomper toutes ses données personnelles, alors imaginez le niveau de vulnérabilité auquel nous, pauvres Pékin, sommes exposés. El País nous révèle d'ailleurs que la pratique n'est pas l'apanage de l'Arabie Saoudite, que l'ex-gouvernement Peña Nieto au Mexique en avait aussi usé pour surveiller des militants d'opposition. Que faire face à ces nouvelles armes de surveillance massive? Un peu naïvement, le Financial Times conclut son édito d'hier par le souhait que des règles internationales soit mise en place multilatéralement pour encadrer le commerce des logiciels espions, il est permis d'avoir quelques doutes.
Et dans la presse italienne, Camille, les règlements de compte de Luigi Di Maio au sein du mouvement 5 étoiles.
Et c'est en une de presque tous les journaux de l'autre côté des Alpes. Di Maio a annoncé hier qu'il quitte les fonctions de chef politique du M5S, poste qu'il occupait depuis 2017. Alors il faut d'emblée préciser avec Il Fatto Quotidiano que Di Maio reste ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement d'union formé il y a 5 mois entre les 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. Ça permet au Premier ministre Giuseppe Conte de dire à qui veut l'entendre que la survie du gouvernement n'est pas menacée à ce stade. Mais tout de même, Luigi Di Maio, en retirant sa cravate, geste symbolique hier soir, a fait éclater au grand jour la crise interne au sein du mouvement 5 étoiles. Tant, insiste la Stampa, il a dénoncé en le faisant ses ennemis de l'intérieur qui n'ont cessé de le poignarder dans le dos. Et là, c'est clairement le fondateur du mouvement 5 étoiles BP Grillo qui est visé. Mais le fond de l'affaire italienne, c'est que ni le M5S ni le gouvernement Conte ne se font d'illusions sur ce qui les attend dans les jours qui viennent. Dimanche vont avoir lieu des élections régionales cruciales en Émilie-Romagne, un fief de gauche qui menace très sérieusement de passer à droite et même entre les mains de la Ligue de Matteo Salvini. Le gouvernement va-t-il y survivre? Le 5 étoiles va-t-il y survivre à cette nouvelle déroute électorale annoncée? D'après Il Corriere della Sera, rejoint dans son analyse par La Repubblica, c'est sans doute pour anticiper des turbulences que Luigi Di Maio a choisi de se mettre en retrait de son parti. Ce n'est pas forcément très courageux comme attitude, mais c'est honnête, reconnaît Il Manifesto, journal proche du Parti communiste. En tout cas, cette démission hier confirme le fait que la politique italienne entre dans une phase de remise en cause profonde de son leadership. Tous les partis seront concernés et le plus à même d'en profiter à court terme, eh bien, c'est Matteo Salvini et Le Manifesto de prédire que c'est une période glaciaire qui débute pour la politique transalpine.
Merci Camille Magnard.